Donc, bonjour sur Creative Disturbance. Je suis Roger Malina. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec Bernard Ziegler et Colette Tron. Et on va discuter de l'improbable. Donc, Bernard, tu te présentes rapidement.
Je suis philosophe, je dirige l'Institut de recherche innovation et je préside l'association Ars Industrialis, qui est une association qui cherche à inventer un nouveau modèle industriel à partir de l'économie numérique.
Donc, Colette ?
Colette Tron, je dirige une association qui s'appelle l'Alphabet Ville à Marseille et qui fait un travail de critique sur les arts de l'hypercontrôle.
Et donc, en effet, ce que je voulais qu'on démarre cette discussion sur, en effet, une question dont tu as parlé hier soir à la Cité du Livre à Aix, sur l'importance et le rôle de l'improbable comme concept. Peut-être tu peux élaborer un peu.
Alors, l'improbable, qu'est-ce que c'est que l'improbable? C'est un terme qui est utilisé, par exemple, en poésie, chez les Français, par Yves Bonnefoy, qui a été repris par Maurice Blanchot. Et qui est, disons, de l'incalculable. De l'incalculable au sens où, en fait, c'est le singulier. Qu'est-ce que le singulier, que l'on confond trop souvent avec le particulier? Le singulier, c'est ce qui ne peut être comparé à rien, donc il ne peut pas être un objet de calcul. Le particulier, c'est quelque chose qui fait partie d'un tout et qui peut être comparé aux autres parties. Donc, qui peut faire l'objet d'un calcul. Nous vivons aujourd'hui, et depuis longtemps, d'ailleurs depuis le développement surtout de la société industrielle, mais avec les technologies numériques, c'est évidemment beaucoup plus puissant maintenant, nous vivons une transformation massive de la singularité en particularité. Et c'est un très gros problème, parce que le singulier est négentropique structurellement. Le particulier est anthropique, c'est une dissolution du singulier et la particularisation dans la masse, dans le désordre. Alors, la question de l'improbable, c'est par ailleurs la question du désir. L'objet du désir est par nature un objet improbable. Je parle du mot « désir » que je ne confonds pas avec le mot « pulsion », par exemple. Le désir, qu'est-ce que c'est? Quand je désire un être... La figure du désir, comme le dit Freud, c'est par essence, par excellence, la figure de l'amour. Bon. Aimer un être, c'est pas forcément un amour sexuel, ça peut être aimer la géométrie, ça peut être aimer Van Gogh ou Vasarely. Aimer, c'est infinitiser son objet. C'est-à-dire, c'est faire de son objet un objet incomparable. Voilà. Si j'aime quelqu'un, ce quelqu'un n'est pas comme les autres, est incomparable aux autres. Ce que je crois, comme Max Weber, c'est que la dynamique du capitalisme, au départ, repose sur cette capacité à élire un objet hors du calculable. C'est ce que Max Weber décrit comme un paradoxe du capitalisme, dont il montre qu'il s'enracine dans un rapport au divin, à la vie de Jésus-Christ en l'occurrence, c'est-à-dire une vie exemplaire qui est la vie de Dieu, finalement, du Fils de Dieu, qui n'est pas comparable à quoi que ce soit, et qui est en excès. Sur quoi? Sur la monétarisation, sur le calculable, etc., etc.
Alors, une autre façon d'aborder ce sujet, c'est que, comme tu le sais, il y a un grand débat dans les humanités en ce moment, entre la confrontation dans les systèmes épistémologiques, entre les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives. Et en effet, dans les méthodes qualitatives, on privilégie le singulier dans ta terminologie. Donc, en effet... Quand on regarde la vie d'un homme comme on prend De Gaulle, c'est clair que ce n'est pas calculable. Hein. On est dans une analyse qualitative de ce qui s'est passé, de comment quelqu'un en particulier a réagi à son contexte, à aller dans un sens ou un autre. Et en effet, je crois qu'un des problèmes qu'on a dans l'ère du big data, c'est comment on introduit des méthodes qualitatives dans ce système qui est fait pour être quantitatif et calculable. Je ne sais pas si tu peux réagir.
Bien sûr que oui, parce que pour moi, le problème des big data, c'est ce que je disais hier à Aix-en-Provence, c'est qu'il consiste à étendre énormément la puissance de l'entendement, au sens où Emmanuel Kant parlait de l'entendement sous le nom de Verstand, c'est-à-dire la capacité analytique, dont Kant, dans la critique de la raison pure, montrait que la capacité analytique n'est jamais autosuffisante pour produire une vérité, c'est-à-dire, disons, une réalité rationnelle ce qui veut dire durable, non toxique pour son environnement, etc. Il faut que, d'une part, l'entendement tienne compte de l'intuition, c'est-à-dire des données de l'expérience, ne les efface pas, ne les détruise pas. C'est la critique que Kant fait à Leibniz, qui lui reproche de faire disparaître l'expérience dans l'entendement. Et d'autre part, il faut que l'entendement ne se confonde pas avec la raison. L'entendement, c'est un pouvoir analytique, donc où le calcul est absolument efficient et autosuffisant, mais l'entendement n'est pas lui-même autosuffisant, il a besoin de la raison. Et la raison, c'est une faculté d'interprétation. C'est ce que Kant appelle le règne des fins, c'est-à-dire c'est le règne du désir en réalité, hein, de ce qu'on veut faire du monde. Voilà. Par exemple, il y a beaucoup d'injustices dans le monde, on veut réduire l'injustice. Et ça, c'est une question de désir. Voilà. C'est pas une question de calcul. Alors, pour répondre à ta question très pratiquement, parce que c'est ça qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir concrétiser de manière pratique des concepts. Aujourd'hui, nous travaillons à l'IRI et avec Ars Industrialis au sein de l'école pharmacon.fr à inscrire dans les processus de production de traces, de données quantifiables, analysables par des automates, des capacités de désautomatisation qui permettent d'inscrire dans les données des interprétations herméneutiques qui ne sont pas réductibles au calcul des automates et qui font qu'à un moment donné, les individus ou les groupes vont reprendre la main sur les automates pour modifier les paramètres des automates. Et ça, c'est le rapport entre automatique et désautomatisation. Nous parlons d'entropie et de négantropie. Qu'est-ce que c'est que la négantropie ? C'est un processus de désautomatisation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, à un moment donné, rompt une série causale. La série causale, c'est une série automatique. Elle déroule ses effets automatiquement, inéluctablement. Et à un moment donné, quelque chose arrive qui casse, qui produit ce qu'on appelle en théorie des systèmes parfois une bifurcation, et qui va casser la série causale. C'est ce que Gilles Deleuze appelait une quasi-causalité, et c'est ce qu'il appelait la création d'un événement. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut réinventer la lutherie électronique, les instruments électroniques de l'économie des data, en y inscrivant des possibilités herméneutiques et en permettant aux groupes, aux crowds, comme on les appelle, aux foules, de produire de la bifurcation. Cette production de bifurcation, c'est ce qui va aussi permettre, je le crois, de résoudre l'immense problème qui vient à nous en ce moment avec l'automatisation généralisée. Bill Gates, le 13 mars dernier à Washington, a déclaré « Dans les 20 ans qui viennent, on risque de perdre totalement l'emploi. On risque de détruire complètement la redistribution des gains de productivité par le salaire. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec les automates qui se développent extrêmement vite maintenant, il risque de plus y avoir de solvabilité des consommateurs, puisque il va donc falloir faire de la redistribution. Nous nous défendons ici, à Ars Industrialis, pour la France notamment, mais nous pensons que c'est généralisable au monde entier, la reprise du statut de ce qu'on appelle les intermittents du spectacle, qui sont des gens à qui on donne de l'argent pour qu'ils développent leur capacité d'interprétation. Et je pense que demain, la crowd economy, ça ne sera pas une économie de travail gratuit comme ce qu'exploitent aujourd'hui Google ou Facebook, ça sera une économie d'un travail rémunéré, mais pas par un salaire, par ce que nous appelons nous un revenu contributif, qui permettra de donner de l'argent aux gens pour qu'ils développent leurs capacités négantropiques, à condition qu'ils valorisent ces capacités collectivement, en créant des entreprises, en créant des associations, en participant à la vie collective, etc.
D'accord. Colette, tu veux rebondir un peu ? On est parti de l'improbable à la question des nouveaux emplois.
Oui. Et du coup, j'étais restée sur cette question de l'événement dont on a déjà un petit peu parlé hier soir. Donc il y a un artiste, pour moi, qui est l'artiste de l'événement, c'est John Cage, qui est un pionnier hein, de l'utilisation des outils électroniques et puis informatiques, et qui faisait une grande différence entre les principes d'aléatoire et les principes de hasard. Et sur la question de nos machines, ça me semble pas une question à évacuer, même si Cage, ça date un petit peu. D'autre part, John Cage se disait plutôt on revient à la première question, hein. John Cage se disait pas un créateur, il se disait un inventeur. Et pour moi, c'est vraiment le plus grand des bricoleurs, des artistes contemporains. Voilà, c'est pas vraiment une question, c'est un exemple, mais il mettait en place un certain nombre de dispositifs favorables à l'événement. Voilà, c'est un petit c'est ma remarque, c'est pas une question.
Il nous reste quelques minutes. J'aimerais peut-être terminer pour revenir là sur le point de départ, sur l'improbable, l'incalculable. aborder aussi la question de l'inconnaissable. Donc, en effet, et là, je crois que tu as beaucoup insisté, c'est que dans les systèmes biologiques, en effet, il y a des automatismes. Hein, donc, les réflexes, on s'entraîne, enfin, le système s'entraîne à avoir des réactions automatiques. Mais en effet, il faut pouvoir, et c'est là toute la question de la raison, de faire des interprétations qui ne sont pas déduisibles ou calculables à partir des données de fond. Alors, est-ce que les systèmes biologiques et les systèmes numériques sont vraiment différents? On a discuté ça dans un podcast récent avec Frieder Nacke, qui est un artiste informaticien des années 60. Et pour lui, en effet, la majorité des choses dans le monde sont incalculables. Et donc, il y a certaines choses qui sont inconnaissables. Tu veux peut-être réagir?
Alors, je pense que derrière cette question, il y a précisément la question de la singularité.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que le vivant? C'est quelque chose qui repose sur la valorisation des erreurs. Des erreurs de copie, en l'occurrence, et qui, à partir de ces erreurs, je ne vais pas en revenir en détail sur Darwin et le post-darwinisme, mais qui produit une diversité et un processus évolutif qui constitue ce que Gilbert Simonon a appelé l'individuation vitale. Nous, je veux dire ce qu'on appelle les êtres humains, moi j'appelle ça les êtres noétiques, c'est-à-dire les êtres qui sont doués d'un esprit et d'un intellect, nous produisons de la différenciation, pas simplement biologiquement, mais organologiquement, par exemple par le langage, par la culture, par les outils, nous produisons de la différence qui est une différence qui peut toujours, à la fois en tant qu'objet technique par exemple, produire de l'entropie, finalement aboutir à la destruction de la différence, ou au contraire, s'il est pratiqué par exemple par un artiste, intensifier énormément la différenciation. Alors, ce que je crois, c'est que la question d'aujourd'hui, c'est de constituer ce que j'appellerais une écologie de l'improbable. C'est-à-dire, en prenant pleinement en compte tout ce que l'on a appris depuis la thermodynamique en particulier, parce que je pense que la thermodynamique qui pose pour la première fois la statistique, qui met la statistique au cœur de la physique, ouvre un nouveau champ de pensée totalement nouveau. Et à mon avis, on n'a pas du tout suffisamment encore exploré tout cela. Qui pose par ailleurs que, par conséquent, il y a toujours de l'improbable, parce que, précisément, les systèmes, en produisant des bifurcations, produisent quelque chose qui dépasse le système, et qui fait que le système ne peut pas se saturer lui-même. Dans le monde contemporain où nous sommes confrontés à notre puissance colossale, à la fois anthropique et négantropique, avec des technologies de statistique en plus extraordinairement développées maintenant et accessibles à la portée de tout le monde, puisque maintenant tout le monde est inclus là-dedans, il y a à reconstruire complètement une épistémologie, au sens de Bachelard, par exemple, mais aussi une épistémée, au sens où Michel Foucault posait la question. Et ça, c'est une question qui doit être posée à la fois par des physiciens, par des biologistes, par des artistes, par des psychanalystes, par des économistes, par des juristes. Parce que qu'est-ce que c'est que, par exemple, le droit? Qu'est-ce que nous appelle le droit? Pour moi, le droit, c'est ce qui pose que le fait n'est jamais autosuffisant. C'est-à-dire que c'est un fait, par exemple, que l'injustice règne sur la terre, mais au-delà de ce fait, il y a toujours l'improbable volonté de réduire l'injustice et d'affirmer la justice. Qu'est-ce que c'est que la vérité au sens géométrique du terme? C'est quelque chose qui pose qu'au-delà des faits, des données de la perception, il y a ce qu'on appelle en mathématiques des idéalités qui ne sont pas dans l'espace et qui ne sont pas dans le temps, mais qui permettent de penser l'espace et le temps comme arithmétique et comme géométrie, etc. Tout ceci constitue un processus absolument improbable qui pose en principe ce que Emmanuel Kant appelait le principe subjectif de différenciation, à savoir que on sait faire la différence entre le fait et le droit, comme on sait faire la différence entre la gauche et la droite, et que ce savoir-faire, il faut le cultiver, et que voilà ce que on pourrait appeler la civilisation, la culture, l'art, la pensée, c'est ce qui cultive cette compétence qu'on peut perdre aussi, bien évidemment. Et aujourd'hui, nous sommes très menacés de perdre ce savoir.
Ok, très bien. Bah écoute, merci. Malheureusement, il nous reste plus de temps. Merci Bernard, merci Colette.
Merci à toi.